Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter plus de Tribunal des flagrants délires, une émission qui a fait les grandes heures de la radio. Nombreuses sont les personnalités qui se sont présentées à la barre et parfois des plus politiquement incorrectes, comme cet invité du 28 septembre 1982, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui répond à l'accusation de reconstitution de ligue dissoute, car il propage des idées totalitaires et staliniennes, et de dilapidation de fonds publics, puisque les expulsions d'immigrés risquent de coûter fort cher à la France. Alors, plus de justice, oui, soirée flagrant délire, oui, sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la cour ! L'avocat de la défense, Louis Rego ! Le procureur général de la République, Pierre Desproges. Le président Claude Villers.
Un, deux, un, deux, trois.
Nous sommes le tribunal, l'ordre national, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde y est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y'a vraiment rien de pire que les flagrants délires.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Jean-Marie Le Pen.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Jean-Marie Le Pen, 53 ans.
Qualités diverses.
Votre profession.
Je fais des disques d'histoire, du matériel géographique, et je fais aussi, j'ai un hobby, je fais un peu de politique.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes inculpé de reconstitution de ligue dissoute, car vous propagez des idées totalitaires, staliniennes même, dirons-nous.
Il n'a rien compris.
Vous êtes également inculpé de dilapidation de fonds publics, puisque les expulsions d'immigrés que vous préconisez pour venir à bout du chômage risquent en fait de coûter fort cher à la France et que l'on ne voit pas tellement qui pourra remplacer ces émigrés pour travailler, sauf bien sûr si quelques jeunes gens musclés et habiles à manier le manche de pioche peuvent aller creuser dans les tranchées les canalisations du gaz, de l'électricité ou du téléphone.
Ah, si on creuse les canalisations, il n'y a plus de gaz.
Vous pouvez vous asseoir, monsieur Le Pen. Est-ce que vous reconnaissez les faits ?
Non, monsieur le président.
Je n'en doutais pas.
Je pourrais longuement me défendre sur ce thème, monsieur le président. C'est que je considère que l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère de manière massive et surtout l'ouverture de fait de nos frontières à ce qui prend l'allure d'une véritable invasion, en particulier en provenance des grands continents où la démographie est absolument galopante, constitue à la fois une mauvaise action tant à l'égard des travailleurs français qu'à l'égard de ces véritables déportés du travail que sont les immigrés, et c'est à la fois une mauvaise affaire pour le pays. Je pense que s'il est vrai qu'il y a des travaux pénibles et dangereux, ils ne sont pas tous l'apanage des travailleurs immigrés. Pour avoir été moi-même, personnellement, mineur de fond et marin-pêcheur de chalutier, je puis vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éboueurs qui échangeraient leur travail contre celui d'un marin chalutier de l'Orient en plein hiver au nord de l'Irlande. J'ajoute, si vous le permettez, monsieur le président, que je sais aussi qu'il y a des métiers, en particulier des métiers manuels, que les Français ne veulent pas faire au prix où il est payé. Et en recourant à la main-d'œuvre immigrée, en fait, on maintient une basse rémunération de ces travaux, alors que je considère qu'un des éléments très importants de l'évolution sociale serait précisément qu'on revalorise le travail manuel. Or, on ne peut le faire car la main-d'œuvre immigrée pèse à la baisse sur le marché des salaires. J'ajoute que Le recours à des manœuvres a contribué très largement à faire reculer le niveau de la technologie française, et que si des pays comme le Japon ou les États-Unis nous battent, c'est parce que, ce qui est un progrès social, en remplaçant le travailleur manuel dans des métiers dangereux, salissants, répugnants, par le robot, ça c'est le progrès social. On ne peut pas avoir comme objectif, qu'on soit de droite ou de gauche, comme objectif social, que ce soit des Sénégalais qui balayent la neige à Dunkerque.
Il y a peu de machines.
Et les Arabes à Poitiers.
Oui. Alors Jean-Marie Le Pen, vous êtes né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Vous êtes fils de marin-pêcheur. Vous avez fait vos études au collège des jésuites Saint-François-Xavier à Vannes, puis au lycée de Lorient et à la faculté de droit de Paris. Vous êtes licencié en droit et diplômé d'études supérieures de sciences politiques. Vous avez été président de la Corporation des étudiants en droit de Paris, 1949 à 1951, sous-lieutenant au 1er bataillon étranger de parachutistes en Indochine en 1954. Vous êtes d'accord pour que les étrangers soient dans les régiments ?
Ah, pourquoi pas ?
Étrangers.
Je ne suis pas du tout un adversaire systématique de l'emploi des étrangers en France, en particulier dans l'armée. C'est une tradition qui doit avoir 600 ans.
La tradition,
ans.
C'est de les mettre devant.
Par conséquent, elle est bien établie. Puis je vais vous dire, les Français, ils aiment mieux que ce soit les étrangers qui se battent et qui meurent pour eux que leurs propres enfants.
C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi un avocat étranger aussi.
Étranger de souche, attention, pas un bougnoul.
Vous avez été
rédacteur... On se calme dans la salle.
Vous avez été rédacteur politique de Caravelle, l'organe du corps expéditionnaire français en 1955. Vous avez été délégué national de l'Union de défense de la jeunesse française, élu député de la Seine en 1956... inscrit au groupe d'union de la Fraternité française de l'Assemblée nationale. Et justement, à ce sujet, M. Le Pen, je voudrais savoir ce que vous pensez du sens péjoratif donné aujourd'hui au terme poujadisme.
Eh bien, c'est tout à fait naturel, puisque il y a dans ce pays une intelligentsia qui donne les étiquettes et qui porte les jugements. Alors, les poujadistes, le poujadisme, ça a été une réaction anti-bureaucratique et anti-étatique de ce que j'appellerais la base des classes moyennes, c'est-à-dire les petits commerçants et les artisans. Et la grande vague électorale qu'a permis la proportionnelle en 1956 a fait arriver au Parlement 53 députés, qui, à l'exception probablement de Demarquet, qui était médecin, de moi-même et d'un pharmacien, étaient presque tous de petits commerçants et de petits artisans qui n'avaient fait ni centrale, ni polytechnique, ni l'ENA, qui n'avaient pas milité dans des partis politiques et qui, à partir de là, bien sûr, suscitaient le plus grand mépris de la part de la classe politique française qui, comme chacun sait, porte à gauche pour ce qui est de l'esprit et du... mais pas du tout pour le cœur.
Vous pensez que le cœur n'est pas à gauche ?
Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un monopole, en tout cas, et que le cœur politique, en tout cas, le cœur physique, oui. Et encore, ce n'est pas certain. Vous savez qu'il y a des cas où il porte à droite.
Oui, il y en a même au centre.
D'ailleurs. Il est d'ailleurs au centre, en fait. Il n'y a que sa pointe qui est à gauche.
Exactement.
Arrête, mais, ça m'excite.
Je m'étonne également, par exemple, que vous parliez à propos de ce que vous aimez dans la vie, disons ce que vous appréciez le plus chez les gens, c'est-à-dire la résistance. Vous citez, entre autres, la bataille de Bouvines.
Mais vous dites... Je vous rappelle quand même que j'ai fait trois guerres, ça a toujours été sous des gouvernements socialistes. Alors, par conséquent, on ne peut pas m'en faire le reproche.
Mais vous pensez que ce sont les instituteurs qui ont perdu la guerre de 40, par exemple ?
Je pense en tout cas que le Front Populaire, qui allait d'ailleurs abdiquer entre les mains du maréchal Pétain en 1940, a une certaine responsabilité dans l'impréparation à la guerre, car il suffisait pas de raconter qu'Hitler avait des tanks en carton, et il fallait se mettre en mesure de les faire brûler, ce qu'on n'a pas fait, hélas.
Gamelin était de gauche.
Je pense que oui, bien sûr.
Ah bon.
J'en suis certain. Le gouvernement, c'est le gouvernement de M. Daladier qui a déclaré la guerre.
Non, mais Gamelin n'était pas membre du gouvernement. Enfin, il a été...
Il a été désigné par le gouvernement de gauche. Je vous rappelle que de 1936 à 1940, en 1936, il y a une majorité de Front Populaire, c'est-à-dire radical, socialo-communiste, et c'est cette majorité qui d'abord va déclarer la guerre pour Danzig, ensuite va la perdre en 1940, et l'ayant perdue, se retournera et donnera d'une manière écrasante le pouvoir au maréchal Pétain. Je n'étais pas encore responsable des affaires politiques françaises. Alors, voyez qu'est-ce,
oui, voyons qu'est-ce. Mais, justement, vous êtes contre le maréchal Pétain ?
Monsieur, j'ai vécu ces événements tragiques quand j'avais de l'âge de 11 ans à l'âge de 17 ans. Mon père a été tué à la guerre et j'ai fait partie de ces 38 millions de naïfs qui ont cru que le maréchal Pétain et le général de Gaulle avaient parti lié secrètement pour essayer d'éviter à la France son extermination par l'ennemi et d'autre part son déchirement par la guerre civile. Oui, j'ai de l'estime pour le rôle qu'a joué le maréchal Pétain et je trouve bien triste que tant lui fasse aujourd'hui des procès qui ont certainement quelquefois dû leur vie ou leur sécurité au maintien d'un État français occupé, il est vrai, mais occupé pas de la faute du maréchal Pétain, occupé de la faute de la politique française, de tous les Français qui avaient déclaré une guerre qu'ils n'ont pas été capables de gagner. C'est un triste événement. Mais je crois qu'on a été très injuste, je le dis franchement, avec le maréchal Pétain.
Il n'y a personne dans votre parti qui soutienne les théories autrefois développées par les collaborationnistes.
Je ne crois pas.
Vous ne croyez
mais
pas.
Mais ça serait possible, parce que je ne fais pas passer un examen de conscience et je ne demande pas un billet de confession aux gens qui entrent dans mon parti.
Vous dites, nous croyons que l'inégalité n'est pas forcément l'injustice, ni l'égalité la justice. Et que la hiérarchie ne saurait être que celle du mérite et de la responsabilité. Ça se reconnaît à quoi,
ah, je signe
Le Pen.
Deux mains, ça.
Ben oui, et c'est vous qui l'avez dit. Ça,
oui,
j'espère que...
Je signe, oui, je persiste et signe, comme on dit devant les tribunaux.
Mais...
Oui, ben ça veut dire, c'est très clair. Je ne crois pas que l'égalité soit la justice. Je ne crois pas que donner 20 ans de prison à un bandit et 20 ans de prison à un honnête homme, ce soit la justice, parce que c'est l'égalité. Autrement dit, je crois qu'il y a un mérite. Je crois qu'il y a des inégalités qui sont naturelles et justifiées. Je crois que celui qui travaille doit être récompensé, alors que celui qui commet des fautes doit être puni.
Oui.
Et il est évident que le traitement qui leur est appliqué est inégal. Et si on donnait à deux personnes, celle qui travaille une heure par jour et celle qui travaille 8 heures, le même salaire, je dirais que c'est une égalité qui est la source d'une énorme injustice. Voilà ce que ça veut dire.
Vous avez l'impression qu'actuellement, on ne condamne pas les criminels en France ?
Ah, parfaitement. Oui. Je dois vous dire d'ailleurs que je suis... nul n'en ignore. Je suis un partisan du rétablissement. J'étais un adversaire de la suppression de la peine de mort. Je suis un partisan de son rétablissement pour les assassins et pour les terroristes. Et je suis pour une répression du crime et de la délinquance nettement plus ferme que celle qui est aujourd'hui. Car je m'aperçois... Je le dis franchement, je le dis, je le répète, j'ai mieux les flics que les truands et j'ai mieux les victimes que les assassins. Or, je constate que toute une intelligentsia s'émeut beaucoup plus du sort des prisonniers, des taulards ou des criminels que des victimes innombrables qu'ils font. Le langage populaire a assimilé le fait de remettre en liberté des criminels qui n'ont pas purgé leur peine.
De quelle presse parlez-vous, monsieur ?
Je parle de toute la presse.
De toute la presse.
Oui, oui. Je sais, vous voyez, l'humanité, l'autre jour, il y a eu une série d'agressions, vous savez, contre la fête de l'humanité, et qui n'était pas le fait des éléments du Front National, puisque c'était presque tous des jeunes maghrébins. Bon, ben, l'humanité n'a pas... ah non, c'est pas... Ça n'est pas moi qui le dis, mais l'humanité
vous
a essayé...
Que, attendez, monsieur Lepel, vous voulez dire...
L'humanité a essayé de le faire oublier.
Vous voulez dire que le fait d'être adhérent au Front National vous donne un certificat de virginité judiciaire?
Pas du tout. Non, pas du tout.
Et on peut
mais
pas
ils
entrer...
n'ont pas été... Je peux vous dire qu'ils n'ont pas été arrêtés à la fête de l'humanité. Ça n'est pas eux qui ont tiré... Ça n'est pas eux qui ont tiré à coups de feu, ni qui ont donné des coups de poignard aux gens qui assistaient à cette fête.
Vous avez lu quelque part qu'ils étaient soupçonnés de cela ?
Non, pas du tout. Non, parce que j'ai vu les noms des gens qui avaient été arrêtés,
oui.
Et je n'ai pas reconnu de nom d'adhérents du Front National.
Il n'y a pas de maghrébins dans votre parti, faut...
Si, il y a des Français d'origine maghrébine, oui.
Il n'y a pas besoin d'un certificat de baptême,
des Français, pas des étrangers.
Il n'y a pas besoin d'un certificat de baptême.
On ne demande pas ni le billet de confession, ni on ne demande pas de se déshabiller à l'entrée.
Ah bon.
Je remarque d'ailleurs effectivement qu'aujourd'hui, votre mouvement et les hommes qui y participent sont plutôt pro-israéliens. Vous avez répondu à la question du juge d'instruction, y a-t-il des hommes que vous admiriez particulièrement ? Au risque de choquer les sensibilités larmoyantes, je dirais que Begin est l'homme que j'admire le plus. Il
non,
joue une
j'admire le plus dans le moment.
Dans le moment, c'est bien ce que je dis.
Cette semaine.
Il joue une...
Absolument. Je vais vous dire pourquoi. À cause de la résistance qu'il oppose à l'exploitation d'une campagne de presse dont on voit trop bien à qui elle profite. J'ai de l'admiration pour les hommes politiques qui ont du caractère, c'est-à-dire l'aptitude à résister aux pressions qui sont exercées sur eux. Je ne suis pas responsable là non plus de la politique que mène M. Begin, mais en l'état, je trouve que sa manière de résister, de défendre son pays, est assez admirable. Pour une fois, on ne pourra pas m'accuser de...
Donc vous trouvez tout à fait normal, vous qui êtes pour l'abolition du servage, pour la liberté, vous trouvez tout à fait normal qu'une troupe étrangère se promène dans un autre pays?
Oh mon Dieu, c'est un...
Appelez-moi Claude, ou Monsieur le Président.
Vous savez, c'est un problème bien difficile et dont je ne suis pas absolument certain que nous ayons le droit moral de rire.
Je ne vois pas comment vous pouvez d'un côté célébrer la bataille de Poitiers, celle de Bouvines ou d'autres qui ont libéré le territoire français de leurs occupants et de leurs protecteurs. Le terme protecteur, moi, m'inquiète beaucoup. C'est ainsi qu'on désigne aussi les proxénètes.
Oui, bien sûr. Oui, mais vous savez... Oui. On a toujours la partie plus belle de votre côté, de ce côté du manche, bien sûr. Mais je voudrais vous rappeler que les terres saintes, que la terre sainte a été occupée dans une certaine mesure par l'Occident, que l'Occident y a eu sa place plusieurs centaines d'années, enfin en tout cas avant même que les Arabes y soient, et qu'il y a là une espèce de communauté, une propriété internationale, une communauté humaine qui fait que les Occidentaux en Terre Sainte se trouvent aussi chez eux, relativement, toutes choses égales.
Je voudrais revenir un petit peu sur votre conception de la démocratie. Dans ce discours qui a été fait à Fleurine le 19 septembre, vous dites « La démocratie, qui n'est pas un régime parfait, loin de là, devient une antichambre de la tyrannie quand les citoyens se refusent à y jouer leur rôle ou acceptent de le voir limité. » Vous trouvez qu'actuellement, c'est le cas en France?
C'est quelque chose qu'aurait signé Montesquieu, ça, ou peut-être même Rousseau, voyez. Je crois qu'en effet, la démocratie n'est pas un régime parfait.
Non, ça,
et j'ai tendance à penser, comme Churchill, que c'est probablement le pire qu'il y a au monde, mais j'en connais pas d'autres.
Oui.
Voilà.
Alors, il n'a pas dit ça.
Je fais mienne, si vous voulez, cette définition.
Vous avez déformé les paroles. Excusez-moi de vous couper. Vous avez déformé les paroles de Winston Churchill. Il l'a dit exactement. La démocratie, c'est le meilleur régime, hélas.
Oui, alors c'est
il
peut-être
a dit
une autre.
Ça.
Il a beaucoup parlé.
J'étais là,
il a beaucoup parlé, Churchill. Non, mais il a beaucoup parlé. Churchill n'est pas toujours à jeun.
Bah, il était beau,
honnête.
C'est donc pourquoi vous êtes d'accord avec lui. Vous venez de le dire vous-même. Mais vous dites que cette démocratie devient une antichambre de la tyrannie quand les citoyens se refusent à y jouer leur rôle ou acceptent de le voir limité. Vous trouvez qu'en France actuellement, les citoyens français se refusent à jouer leur rôle et qu'ils acceptent de voir limiter leur liberté?
Oui, je le constate par exemple dans les élections où plus de 50% des électeurs se refusent à aller aux urnes. Et pour moi, la vie civique... dans un pays démocratique, ça ne consiste pas à déléguer seulement son pouvoir à des députés tous les 5 ans, mais à participer véritablement à la vie nationale.
Mais vous n'êtes pas partisan d'un coup d'État?
Non, non, non.
Soyez franc.
Écoutez, chaque fois que... le dernier coup d'État qu'il y a eu en France, relatif, c'était toute chose égale, le coup d'État légal du général de Gaulle en 1958, accompli d'ailleurs avec l'accord, enfin tous les cas, ratifié plus tard par M. Guy Mollet, la SFIO et un certain nombre de gens qui sont entrés dans son ministère. Et généralement, les gens qui ont fait ce coup d'État-là, ils ont essayé de me mettre en prison tout de suite. Alors par conséquent, je suis contre les coups d'État.
Tout coup d'État.
C'est sûr, oui, absolument.
Que pensez-vous?
Même quand c'est vraiment nécessaire.
C'est un cas de figure, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais je ne me suis pas trouvé dans la situation d'avoir à approuver un coup d'État.
Et, dans ces cas...
d'ailleurs, je l'ai désapprouvé quand il s'est produit, car je suis probablement un des deux députés français à n'avoir pas voté en 58 l'investiture du général de Gaulle.
Et vous pensez...
Moi non plus.
Vous pensez...
Il n'était pas député.
Non.
Et il n'était pas français non plus. Mais vous n'avez... Il avait la chance, lui, d'avoir...
Il avait la chance d'être un simple citoyen.
Non, il avait la chance d'avoir...
J'étais pas là, carrément.
Monsieur Salazar.
Qui est un aimable dictateur, là.
J'espère... Mais vous n'avez pas été empêché de rentrer, j'espère, après. Parce que maintenant, après la révolution des roses, c'est la démocratie socialiste qui est arrivée au pouvoir.
Ah bon, alors...
Ça nous a valu le plaisir de vous avoir ici, et j'en suis très
content. Pas exagéré non plus.
Il n'y avait pas que du mauvais dans Salazar. La preuve, c'est que vous êtes là.
Non, monsieur, il était là justement à cause de Salazar. Je crois que vous faites erreur, là. Je voudrais vous poser une dernière question, monsieur
Le Pen. Et après,
on arrête.
On reparle de sexe un peu, parce qu'il y en a marre, pétain.
Non, je ne veux pas. Écoutez, je préfère encore garder cet avocat-là.
Mais, Nous allons procéder...
Ah, j'ai une question.
Non. Ah, vous avez une question à poser, monsieur le procureur, oui.
Oui, je voulais demander à l'accusé ce qu'il pense d'un sondage qui a été effectué récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sondage révèle que 100% des Blancs en Afrique du Sud et 100% des Noirs sont contre le cancer.
Oui. Eh bien, écoutez, c'est un sondage qui m'éclaire beaucoup. D'ailleurs, je...
Ça prouve qu'il y a des terrains d'entente, quand même.
Oui, oui, non, non, mais je dois vous dire que quelquefois, je suis tenté d'apporter ma signature à un certain nombre de pétitions que je vois dans la presse.
Et
j'imagine bien qu'un jour, on pourra voir, dans le fond, une pétition signée de Georges Marchais, d'Yves Montand, de Simone Signoret et de Jean-Marie Le Pen, qui serait contre les accidents de la route, contre la guerre, contre le mal, contre la vérole, et un certain nombre de choses comme ça.
Vous connaissez des gens qui sont pour?
Ben, dans tous les cas, je suis prêt à signer contre.
Oui. Maître Rego, avez-vous une question à poser à votre client?
Oui, vous dites dans le questionnaire de Proust, votre qualité préférée chez un homme, vous répondez la droiture. Est-ce un jeu de mots ou...
Mais ça n'est pas tout à fait un jeu de mots, c'est vrai.
À propos des femmes, monsieur Le Pen, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré au juge d'instruction. À la question, votre qualité préférée chez une femme, vous avez répondu la douceur, le charme, la tendresse. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de militante du Front National?
Comment? Si, si. Non. Il y a... Je ne saisis pas bien votre question.
Vous n'avez absolument pas à citer dans les qualités préférées chez une femme l'ardeur militante.
J'aime que les hommes soient masculins et les femmes féminines, c'est tout. Et dans une femme, les qualités principales, dont la féminité, le charme, la douceur, qui paraissent des qualités primordiales chez une femme. Je n'aime pas beaucoup les viragos, voilà, mais il y en a eu de grands talents, nous en connaissons tous.
Les viragos, c'est une juive, c'est pour ça que vous dites ça.
Vous voulez dire qu'en fait, vous n'appréciez pas tellement que des femmes adhèrent à votre parti? C'est bien ce que j'ai
pas
dit.
Pas du tout.
Une question.
Pas, dites, du tout j'aime pas, les viragos. Pas du tout, puisque j'ai dit que mon héros historique et humain, c'était Jeanne d'Arc. Alors, je ne peux pas dire plus.
Elle était adhérente au Front National?
Non, elle n'était pas. Mais je suis sûr que si elle avait vécu maintenant, elle y aurait adhéré.
C'est difficile de porter un badge sur une armure.
Il y a des collants. Nous avons des très beaux autocollants.
Ah, Jeanne d'Arc en collant.
Arrête.
L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, qui est inculpé de reconstitution de ligue dissoute car il propage des idées staliniennes en prêchant pour le totalitarisme, quel que soit ce totalitarisme, et qu'il est également inculpé de dilapidation de fonds publics parce que les expulsions d'immigrés qu'il préconise pour venir à bout du chômage risquent en fait de coûter fort cher à ce pays. Ces inculpations vont être répétées et répercutées par l'organe puissant et généreux du représentant de la société, le procureur général de la République des proches françaises.
Française, Français, Belge, Belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré.
Ta gueule.
Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment,
elle est marre.
Avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens, depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de... Vous allez rire. Plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Ah ! Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal.
Ah bon ?
Qui pisait... Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique ? Alors, le rire... Parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H, comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui sans les avoir consultés, pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rigaud et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. Toi aussi, à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poiloride. Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive, qui ici présent, son grand amour qui s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que Satata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado. Peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste mais plus nègre que Georges Robert. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. Et c'est une histoire de chauffeur de taxi, justement. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, couperosé de frais. Et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais, alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. « Ah ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. » Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, et ben merci bien. Ah les salauds, hein. Alors leur musique à la con, merde. Alors vous me croirez si vous voulez, hein. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis, monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah bon, ah, remarquez, votre père, je dis pas, hein. Ah merci. Il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Belmar. À l'arrière, brinque-ballée entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. Oui, votre père, je le dis pas, hein. Mais alors, les miens d'arabe, pardon, hein. Alors, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, monsieur, hein. Et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils leur arrachaient les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui a dépucelé, hein. Ça, je suis sûr. Ça s'entendait, alors. Mais votre père, je le dis pas, hein. Et puis, de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe, monsieur. Ah, bon, la Concorde, à ce temps-là, il n'y a pas moyen, hein. Oh là, et t'avances, ces connards. Ah, mais c'est vert, mais il est con, retourne dans ton 77, et connard. Voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, moi, mon derrière. Voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race. Il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez. Remarquez. Vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah ben, vous n'êtes pas généreux, vous, alors, elle pour les cheveux. Ah, c'est comme ça, me venger, j'en faim. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors, cet homme, tandis que nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, eh, sale bico. » à moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs les jurés. Le temps qui m'est imparti, ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique, m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux, ou de la race des victimes, ou des deux, ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou, pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Régaud, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Louis Régaud a dit ici, les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons.
Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freude der Justiz! Und das Faschismus! Alile! De quoi est-ce qu'on accuse-t-on mon client? Oui, je sais. Oui, je sais. Que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Je sais. On a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde! On est en démocratie, profitons-en, parce que quand l'extrême droite sera au pouvoir, on n'aura peut-être plus le droit d'être fasciste! Allez, là! Je suis fasciste, je m'assume, je vous laisse vivre, foutez-moi la paix! C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regardent d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne ne s'en aperçoit. Il y en a marre, je suis un citoyen comme les autres, vive la France, vive le Führer ! Et qu'est-ce que vous croyez, amis de la tolérance ? Que nous sommes plus à camp que les autres ? C'est faux. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh bien, je vais vous le dire. Une société parfaite. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire. Où il n'y a pas de grève. Où les partis politiques viennent pas nous beurrer l'arrêt à la télé. Où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se coinfrer de couscous ou de morue. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres. Où l'oncle doit être marié avec la tante. Bref. Une société parfaite, c'est une société où l'on ne rit pas bêtement. C'est ce qu'on demande, nous. C'est ce qu'on demande. Le bonheur et rien de plus. J'ai été élevé dans une ambiance fasciste et si je respecte mes parents, c'est grâce à eux. Mais je suis sûr que vous vous demandez comment un nazi peut vivre heureux au milieu de cette pagaille. Eh bien, c'est très simple. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier. 5h du matin. Je saute de mon lit en fer où je dors sur des clous. Mon réveil automatique me chante « Ali, allo, allo ». Encore endormi, je salue le portrait du Führer. Allez là. Qui est juste au-dessus de mon lit, avant de me laver les dents, avec une brosse en fer également. Six heures. Petit déjeuner, composé de saucisses de Francfort. Sept heures. J'achète minutes pour me tenir au courant de ce qui se passe chaque minute dans le monde. 8 heures, j'ai fini la première page et je relis Mein Kampf ainsi que les œuvres complètes d'Himmler sur l'organisation des SS et le salut de la race arrière. 9 heures, je pars déjouer le complot contre mon pays. Et je me rends aujourd'hui à la brasserie munichoise, rue de Verdun. Il fait plus de 5 degrés, j'ai très chaud. Dix heures, il fait une chaleur infernale, 7 degrés. 11 heures, après avoir entendu dire du mal de la France un peu partout, dans cette brasserie, je pars écœuré. Midi, je fais quelques courses. 2 kilos de pommes de terre, une boîte de Francfort, 2 kilos de choucroute, 10 litres de bière allemande et une matraque. Une heure. Ça sent encore la morue partout dans la cage de l'escalier. Deux heures. Pendant que la choucroute cuit, je bois une bière et je prépare une pétition afin de faire expulser le noir du sixième ainsi que le concierge portugais et toute sa famille parce qu'il a fermé la porte de l'entrée de l'immeuble à 10h05 au lieu de 10h. Trois heures. C'est plus de la choucroute, c'est de la bouillie. 4 heures, je reçois un coup de fil anonyme, une voix qui me dit « Salaud, on aura ta peau !» Je suis sûr que c'est le noir du sixième et sur la porte duquel j'ai gravé une croix gammée à la hache hier soir. 4h30, je cire mes bottes d'officier allemand SS que j'ai acheté aux puces. Puis je me mets mon manteau de cuir noir avant de me rendre chez le tatoueur. 5h, il est exactement 5h pile. Je rentre chez le tatoueur pour me faire faire un tatouage du Führer sur l'omoplate droite. La séance commence. Au bout de 5 minutes, les douleurs sont intenables. Je serre les dents sur le goulot de ma canette. Mais l'amour du Führer demande beaucoup d'abnégation. Tout d'un coup, horreur ! Horreur ! Je m'aperçois que la chaîne que le tatoueur porte à son poignet est gravée de son nom. Lévi ! Lévi ! J'ai du mal à contenir un cri de rage. L'aiguille me fait de plus en plus mal. Je suis torturé par un juif ! J'ai mal, j'ai mal. C'est long. Pourvu qu'il ne s'aperçoive pas de mon admiration pour les Allemands. C'est heure moins le quart. Le tatoueur me dit, c'est presque fini. Si vous voulez, je peux vous faire Himmler sur l'omoplate gauche. 7h. Je ne peux plus bouger mon bras droit. Les douleurs sont insupportables. Je prends le métro. Dans un couloir, une affiche d'Amnesty International provoque chez moi une haine sanguinaire. Sanguinaire. Je sors mon gros feutre noir de ma poche avec ma main gauche pour exprimer ma rage. Mais j'ai du mal à écrire avec ma main gauche. 7h30, après avoir fait des pâtés sur l'affiche, J'arrête un passant et je lui demande gentiment de marquer dessus avec mon feutre « Mort aux juifs et aux bougnoules ». Le type me demande en rigolant « Bignoul, ça prend de l'aile ?» Aussitôt, il me balance un coup de tatane dans les tibias et un second dans le bras gauche. La vache ! 8 heures, écroulé à terre, j'ai mal partout. Une main charitable me prête secours. C'est la main d'un policier. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, oh ben, j'ai empêché un salaud d'écrire des injures sur l'affiche. Et il m'a assommé. Le policier me dit, vous êtes pas le seul dans ce cas-là, hélas. Il essaie de me relever par l'omoplate droite. Je pousse un hurlement de douleur. Hey ! 8h30, je me traîne en boitant, mes deux bras mortifiés devant la brasserie munichoise. Je tombe sur la belle Elsa, ses cuissardes, son berger allemand. Elle me dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu montes ? Je lui dis, oui, j'ai besoin d'amour. 9h, je donne ma matraque à Elsa, je m'allonge sur son matelas sordide et je lui dis, achève-moi salope, ça va me détendre. Elle retire son manteau de renard, elle n'a plus que ses cuissardes et son porte-jartel, et elle commence à m'écraser la gueule à coups de matraque. Je lui dis, c'est bon, ça me fait du bien quand tu me fais mal. Elle me dit, hein, t'aimes ça, salaud ? Hein, t'aimes ça ? Je lui dis, oui, dis à ton chien de me mordre aussi. 9h30, j'ai des frissons. Je suis en lambeau, le chien ne m'a pas loupé. Mais j'ai jamais aussi bien fait l'amour de ma vie. 10h05, j'arrive à quatre pattes devant la porte de mon immeuble et elle est fermée. Et j'ai oublié la clé, merde. Et c'est contre Portos qui a fermé à l'heure. Fou de rage, je balance des coups de tatane dans la loupe. Mais il fait semblant de pas m'entendre, l'enflure. Minuit, je tombe de fatigue et de sommeil et je me couche dans une poubelle. 4h du mat, j'ai des frissons. J'entends la porte qui s'ouvre. C'est le noir du 6e qui part au boulot. Je hurle, laissez la porte ouverte. Il me dit, je ne réponds pas aux gens qui me parlent d'une poubelle. Et il me claque la porte au nez. Quel salaud ! Les gens de cette espèce-là, faudrait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Allez, Hitler !
C'était le Énervé la Suite France Inter Plus de Tribunal des flagrants délires avec Jean-Marie Le Pen et c'était le dernier invité de cette série. Vous pouvez retrouver un peu plus de Pierre Desproges dans le beau livre Des Proches par Des Proches aux éditions du Courou. On se retrouve lundi pour une nouvelle série, cette fois consacrée à Albert Camus. Et oui, ça nous change, hein, à l'occasion des 60 ans de sa disparition. Cette semaine, réalisation, c'est Stéphane Combe. Préparation, c'est toujours Virginie Rouzic. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors à lundi.